Tov, bon, les amis, shalom ouvracha, boker tov les koulam. On revient dans notre étude de l'histoire de la Kabbalah et nous sommes à la deuxième moitié du 19e siècle. La semaine dernière, on a parlé de ce personnage haut en couleur qu'était Rabbi Eliyahu ben Amozeg, avec toute la Torah extraordinaire qui était la sienne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un rabbin. Alors, comment vous dire? On va parler d'un monsieur. Là aussi, on va tenir tout le cours sur lui, mais je le présenterai en disant la chose suivante. Il n'a pas écrit de livre. Il n'a pas écrit de livre. On ne le connaît pas comme étant, on va dire, un homme de qui on va étudier ses enseignements. Pourtant, il est l'un des plus grands maîtres de la Renaissance du peuple juif et de lui, on ne va pas apprendre tant ses enseignements dans les textes que dans ses enseignements dans les actes. C'est-à-dire qu'on va parler d'un géant parmi les géants, reconnu, là pour le coup, par tous. C'est pas comme Rabbi Eliyahu ben Amozeg, qui a été, on avait dit la semaine dernière, mis en cherem par une partie des Juifs à Bagdad et tout ça. Là, on parle d'un homme qui est reconnu par tout le monde comme étant Gdol et Mashtalorotse. Chachmé Aniglé le considère comme étant un géant, Chachmé Anistar le considère comme étant un géant, il n'y a pas de problème. Aval, c'est un homme qui va être dans l'action toute sa vie. Et quelles actions! Et quelles actions! Vous savez, des fois, on parle de gens qui sont extraordinaires et qui ont, ils ont aidé à créer un hôpital, ils ont aidé à créer des choses pour le peuple juif, pour le social. Et tout ça, c'est fantastique parce que on n'a pas l'habitude de voir des rabbins s'occuper d'autre chose que de leurs livres. Mais là, on ne parle pas seulement du social. Là, on parle d'un homme qui va être tout simplement celui par qui la résurrection du peuple juif va pouvoir se faire. Et là, les amis, je ne plaisante pas. Nous allons parler aujourd'hui d'un homme qui s'appelle Harav Shmuel Mohaliver. Alors allons-y, Rav Shmuel Mohaliver, c'est qui? Bon, bah d'abord, le Rav Shmuel Mohaliver, il faut que vous compreniez que c'est un homme qui est arrivé en rêve. C'est quoi, il est arrivé en rêve? Eh bien, alors que ses parents sont depuis longtemps sans enfants, son père, le Rav Yehuda Leib Mohaliver, il est le rabbin de la ville de Livoukia, qui est dans la Lituanie actuelle. Eh bien, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas d'enfants. Finalement, maman arrive à tomber enceinte. Et juste avant la naissance du petit Shmuel, elle fait un rêve dans lequel elle voit un Beth Amidrash dans les flammes. Mais comme le sné, comme le buisson ardent de Moïse, eh bien, elle ne comprend pas, car le Beth Amidrash brûle, mais ne se consume pas. Elle est évidemment réveillée en sueur par le rêve. Elle réveille son mari et elle lui dit: Yehudale, Yehleibele, qu'est-ce que c'est que ce rêve? Et son mari lui dit: Rendors-toi, il est évident que ce rêve n'est qu'une annonce du feu extraordinaire de la Torah du bébé que tu portes en ton sein. Bon, je ne sais absolument pas si cette histoire est vraie ou pas. Mais ce que je sais, c'est que effectivement, le feu de la Torah du petit Shmuel est extraordinaire. Alors, d'où on va apprendre le petit Shmuel? Eh bien, les amis, j'aimerais vous raconter le premier enseignement du petit Rav en devenir Shmuel Mohaliver. Et je te parle d'un petit garçon qui a 4 ans. Alors, il n'est pas encore le Gdol HaMekoubalim qu'on connaîtra, mais il a 4 ans. Son père a l'habitude de l'amener avec lui au Beth Amidrash. Bon, pourquoi pas? C'est vrai qu'à 4 ans, même dans le monde religieux, même dans le monde des rabbins, en général, tu n'emmènes pas un enfant de 4 ans au Beth Amidrash avec toi et tu étudies avec lui. Mais bon. Et donc, son père l'emmène avec lui au Beth Amidrash. Et un jour, qu'ils sont en train d'étudier tous les deux, il y a deux hommes qui sont des anciens élèves de Rabbi Chaim de Volozhin. Ils ont même connu le Gaon de Vilna. puisque la ville de Libyokia est pas loin de Vilna. Et donc, il y a deux hommes de Vilna qui arrivent, qui s'assoient au Beth Amidrash et qui voient eh ben, ce père en train d'étudier avec son fils de 4 ans. Il lui dit, bon, hey, oh, 4 ans, c'est quand même petit. Et donc, il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il demande au père, est-ce qu'ils peuvent parler avec l'enfant? Il dit, oui, évidemment, étudie avec moi, vous pouvez lui parler. Et les deux hommes lui demandent, mais enfin, qu'est-ce que tu étudies là maintenant? Et le petit garçon lui dit, eh bien, écoute, on étudie avec mon papa la Torah, Parashat HaShavua. OK. Et alors, les deux hommes lui disent, bah, alors, qu'est-ce que tu as étudié là maintenant? Il dit, bah, voilà, on est dans la Parasha de Vaishlach. Incroyable! C'est la Parasha de cette semaine en plus. C'est fou! Il n'y a pas de hasard. En tout cas, Parashat Vaishlach, il lui dit, voilà, on a étudié le fait que Yaakov avait très très peur de retourner en Eretz Israël. Et les deux hommes lui disent, ah, c'est intéressant, mais pourquoi il avait peur? Et c'est là que le Rav Shmuel Mohaliver va donner son premier discours en public, bon, en public de personnes, mais quand même. Et il dit, mais enfin, il avait très peur, pourquoi? Mais parce que il était parti d'Eretz Israël. Et donc, pendant les 20 années ou 22 ans où il était en Chutz La'aretz, bien qu'il a fait ça sous l'ordre de son père, eh bien, il n'avait plus la mitzvah d'habiter en Eretz Israël qui le protégeait, alors que Esav, lui, habitait en Eretz Israël. Premier discours du Rav Mohaliver, l'importance d'habiter en Eretz Israël. Bon, ben, les amis, voilà, la carrière du bonhomme est lancée. La carrière du petit Shmuel ne fait qu'un tour. Et donc, ben, une fois qu'il va grandir et qu'il aura 7 ans, alors à 7 ans, on est au Cheder, et ça, c'est plus ou moins normal. Il n'est pas encore une fois, Gdol HaMekoubali, mais pourtant, il est déjà Gdol HaTalmidim. Il est Gdol HaTalmidim, et un jour, alors qu'ils étudient le Chumash, un des enfants demande au Rav, comment ça se fait que la Torah a donné tout un chapitre entier pour expliquer comment Abraham a acheté Meharat HaMakpela? Le Rav dit, c'est une très bonne question. Je vous propose d'y réfléchir tous. Moi aussi, je vais y réfléchir. Et demain matin, je vous donnerai ma réponse. Le lendemain arrive. Et le Rav Mohaliver, le petit Shmuel de 7 ans, demande à prendre la parole. Il demande, Rabbi, est-ce que je peux donner la réponse? Moi, j'ai réfléchi toute la nuit. Ah, bah alors oui, donne ta réponse. Sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que cette même soirée, la veille, il y a un pogrom énorme qui attaque la ville de Vilna. Donc, à côté de la ville de Loubaki, on dit en français Loubaki, de là où il habitait. Et il entend, le petit Shmuel de 7 ans, il entend ses parents parler du pogrom. Il entend sa mère dire « Eze pogrom oivavoy » et il entend son père dire « Un jour viendra où nous ne serons plus soumis au pogrom, où nous serons rentrés chez nous. » Le petit Shmuel ne comprend pas ce que veut dire le mot pogrom. Et son père lui explique qu'un pogrom, c'est lorsque les non-juifs, sous l'accord de leur gouvernement ou de leurs autorités, et des fois même avec leur aide, viennent frapper le peuple juif. Et le petit Shmuel réfléchit et il dit, mais alors à ce moment-là, pourquoi on reste chez eux s'ils nous frappent? Et le lendemain matin, le petit Shmuel arrive à l'école, au Cheder, et il demande au Rebbe de prendre la parole et il dit, la Torah a consacré un chapitre entier pour montrer l'achat de Meharat HaMakpela. Pourquoi? Pour que tu saches que c'est compliqué d'acquérir la terre d'Israël. Ça ne se fait pas en un coup de cuillère à peau. Il faut tout un chapitre pour qu'Abraham achète Meharat HaMakpela. Mais c'est compliqué, mais c'est pour ça que la Torah nous a expliqué en long, en large et en travers comment le faire, parce que l'heure est arrivée pour que nous aussi, comme Abraham, nous prenions possession de la terre d'Israël. Et même si c'était compliqué, Abraham l'a fait. Et donc, même si ce sera compliqué pour nous, l'heure est venue de le faire. Il a 7 ans. Rabotai, on va arrêter les histoires d'enfants. Le Rav Mohaliver grandit et il devient... Alors, il étudie d'abord l'Yeshiva de Volojine, hein, évidemment, dès l'âge de 12 ans. Et il rentre à la Yeshiva de Volojine. À 15 ans, il se marie et son rave est celui qui est Mechaten Oto, n'est autre que Rabbi Tzrak de Volojine, Rabbi Yitzhak de Volozhin, Rabotai, c'est Rosh Yeshiva de Volozhin. C'est le fils de Rabbi Chaim de Volozhin. C'est deux générations après le Gaon de Vilna. Ah, et non, c'est pas rien. Et désolé de vous dire, mais le Gaon de Vilna, on en a déjà parlé, c'est tout l'univers de la Kabbalah et tout l'univers de la Halakha. Et c'est comme ça, Rabbi Chaim, et c'est comme ça, Rabbi Yitzhak également. Donc c'est de là que Reb Shmuel Mohaliver va commencer à puiser l'enseignement de secret de la Torah. Et pour lui, il y a une chose qui est évidente. Alors qu'il est nommé rabbin à 18 ans, il refuse catégoriquement de devenir rabbin de communauté. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, a commencé à se développer la réalité que nous connaissons tous aujourd'hui, que le rabbin de communauté, il est payé par la communauté pour être rabbin de communauté. Et pour le Rav Mohaliver, le fait de bosser de ses mains est essentiel pour comprendre la Torah et est essentiel également pour dévoiler HaKadosh Baruch Hu dans le monde. Il dit la Torah doit être au service de nos actions dans le monde. Et donc je dois agir dans ce monde, je dois travailler. C'est obligatoire. Je ne peux pas, et c'est ma Torah qui me dit ça, je ne peux pas me contenter d'étudier ou d'enseigner, je dois construire le monde. Et donc, le Rav Mohaliver, il devient, comme tout bon juif qui se respecte, il devient marchand de tissus. Eh oui, il est dans le schmates, comme on dirait en arabe. Il est marchand de tissus. Bon, et il kiffe sa vie, il vit sa meilleure vie, il est en train de devenir un des plus grands des plus grands, et il est mis de Parnès. Et il est tellement heureux. Il est tellement heureux, mais évidemment que son étude ne se limite pas, comme on a dit, à la halakha. Petit à petit, il devient un des grands, grands maîtres de la Kabbalah. Et il va écrire un texte. Alors, ce n'est pas un livre, mais c'est un texte qui s'appelle « Hachem Oev et Hakol ». Hachem Oev et Hakol. Mazé Hachem Oev et Hakol. Pour le Rav Mohaliver, il y a une chose qui est évidente et il ne comprend pas comment ça se fait que les rabbins qui l'entourent ne sont pas là-bas. Il dit, je ne comprends pas comment dans le Talmud, tous les rabbins du Talmud étaient évidemment les Gdolé Olam dans la Torah, mais ils étaient aussi des astronomes, des mathématiciens, des penseurs, des artisans. Ils étaient tout. Et il dit, ce n'est pas possible de vouloir continuer à transmettre cette Torah-là et de s'enfermer uniquement dans le Beit HaMidrash. Vezet Torah ta Kabbalah, et il cite le Hari, et il cite le Gaon de Vilna. Et il dit, c'est pas possible, on doit connaître tout. On ne peut pas ne pas tout connaître, HaKadosh Baruch Hu, il est partout. Nous dit le Rav Mohaliver, et je cite, Iné, Veribono shel olam, ברוב חסדיו גילה לנו את התורה ואת החוכמה. התורה, donc la Torah, לחוכמה זה les autres sagesses du monde. גילה לנו את התורה ואת החוכמה. וגם התורה וגם החוכמה האנושית הם יצירותיו של ריבונו של עולם. ולכן ראוי שיסתדרו יחד, כי רק יחד יגלו Hashem Echad Ushemo Echad. Torah Tanigle, elle fait la différence très clairement entre Maché Torah et Maché Lo Torah. Torah Tassod, et on l'a déjà expliqué maintes et maintes fois, son rôle, c'est de la soude, de l'histoded, de souder tous les éléments de ce monde. Et donc, bah, il te dit, je ne comprends pas comment les gens ne sont pas « et là, ce n'est pas possible !» Et le Rav Mohaliver va étudier les mathématiques, va étudier l'astronomie. Il adore ça. Et il dit, mais tout ce que j'étudie, ça me permet de mieux comprendre la Torah. C'est fantastique. Alors, très bien. Bon, ça, on est dans un rabbin qui détonne un petit peu, on va dire, de la majorité des gens. À un moment donné, pogrom sur pogrom arrive dans la région et le commerce est complètement arrêté. Il ne peut plus continuer à faire sa parnassa de ses habits. Et donc, Bedelet Brera, il est obligé d'accepter de devenir rabbin de communauté. Bon, il devient rabbin de communauté et il va finalement arriver dans la grande communauté de Radom. De Radom, la frontière polonaise-lituanienne actuelle. Et il devient le rabbin de là-bas de Radom. Et il se passe un truc. Il se passe un truc très, très important. Il se passe un truc que tout le monde, va absolument... il y a l'ébullition complète à Radom. Qu'est-ce qui se passe? Nous fêtons en 1883, nous fêtons l'anniversaire, tenez-vous bien, des 90 ans d'un monsieur très particulier. Et là, c'est là que le Rav Shmuel Mohaliver va commencer à prendre une dimension absolument astronomique. On fête les 90 ans d'un monsieur qui s'appelle Hassar Moshe Montefiori. Moïses Montefiori. Et là, le Rav Mohaliver fait placarder dans toute la ville, alors que tout le monde en parle dans le monde juif. Les 90 ans de Moshe Montefiori, fantastique. Il fait placarder dans tous les murs de la ville des grands panneaux publicitaires. Grand kavod sera rendu pour Moshe Montefiori. Mais pourquoi est-ce qu'on fait tellement de kavod à Moshe Montefiori? Mais parce que pour le Rav Mohaliver, l'idéal mis en place par Moshe Montefiori, eh bien, c'est ce qu'on doit faire. Maskeret Moshe, Mishkenot Shananim, plus tard Yemin Moshe. C'est ça l'idéal de la reconstruction, c'est ça l'idéal de la Torah, c'est ça l'idéal de la Kabbalah, on y va. Et donc, puisque nous avons un rabbin, nous avons un personnage comme Montefiori, qui a permis les choses, eh bien, yalla, il faut y aller. Écrira le Rav Mohaliver dans son discours. Alors évidemment, Moshe Montefiori, il n'est pas à Radom, hein, mais il va faire un discours comme si il était là-bas. Et à tel point qu'on va lui sortir qui c'est Eliyahu, et on va le faire... Alors, il n'est pas là, mais on fait le Kavod Melachim au Sar Moshe Montefiori comme s'il était là. Et nous dit le Rav Mohaliver, Ve'alpi Torah Ta'emet. Bon, vous savez bien, on avait bien compris que Torah Ta'emet, ça fait longtemps qu'on a compris que c'était référence à Torah Ta'Kabbalah. On dit Alpi Torah Ta'emet. Lo lechinam ha'yehudim mitgaisim le'ezrat yoshvei eretz Yisrael. Em chafetzim lachzor habayta. C'est pas pour rien que le peuple juif entier est prêt à aider pour les juifs qui habitent en Eretz Israël. C'est parce qu'il y a cette volonté de rentrer à la maison. Veze amatara a eliona vetzorech lanu leishtatef ba hi kiyum mitzvah min amufrar. Le fait de participer n'est pas du domaine de la bonté, c'est du domaine de la mitzvah la plus importante. Et là, le Rav Mohaliver a décidé de changer de vie. C'est-à-dire quoi changer de vie? Eh bien, il n'est plus un vendeur de tissus et il ne sera plus le rabbin de Radom. Enfin, si, il sera toujours le rabbin de Radom, mais le problème, c'est qu'il ne sera jamais à Radom. Parce qu'à partir de maintenant, il va sillonner le monde. Pourquoi il va sillonner le monde? Parce qu'il vient de dire qu'il fallait participer et aider à la reconstruction d'Eretz Israël. Donc, il va commencer par aller voir le monde entier pour convaincre les gens à donner de l'argent pour construire Eretz Israël. Et il commence à voyager. Et il voyage en diligence, et il voyage en train, et il voyage de partout. Mais l'endroit où il se pose le plus souvent, c'est à Varsovie. La grande ville de Varsovie. Et à Varsovie, il rencontre non pas les vieux rabbins, il ne rencontre pas non plus les vieux, on va dire les vieux aristocrates, enfin aristocrates, non, mais riches juifs, il rencontre des jeunes juifs. Mais comprenez-moi bien, on est dans la deuxième moitié du 19e siècle, à Varsovie, la grande ville européenne, c'est qui les jeunes juifs? Eh bien, c'est des juifs qui sont habillés en costume trois pièces, qui n'ont pas de kippa, qui n'ont pas de Torah, qui ont abandonné la Torah certainement déjà à l'époque de leurs parents, mais qui sont, pour la plupart, animés par ce vent de nationalisme qui souffle en Europe. Et c'est vers eux qu'ils se tournent. Pourquoi ils se tournent vers eux? Parce qu'ils se disent que c'est eux qui vont pouvoir mettre en marche ben, le fait de motiver tout le monde à participer à Eretz Israël. Ils se disent, les vieux, ça ne marchera pas. Mais si j'arrive à motiver les jeunes, eux, ils motiveront d'autres jeunes. Le concept des influenceurs était né. Bon, alors quel est son moyen de vente? Eh bien, le Rav Moi Liver se balade partout avec une carte d'Israël. Et il montre à chacun, voilà, regardez, là-bas, il y a ça, là-bas, il y a ça, là-bas, il y a ça. Il leur dit, là-bas, il y a eu tel événement biblique, là-bas, il y a eu tel événement biblique. Il leur montre sur la carte. Il leur dit, maintenant, c'est à toi d'aider pour que de cet endroit-là, on puisse reconstruire quelque chose. Et ça se balade un peu partout. Et il rassemble un peu d'argent par-ci, un peu d'argent par-là. Il rencontrera parmi les plus grands riches de Varsovie. Et même s'ils sont tous plus ou moins convaincables par le Rav Moi Liver qui parle bien, et c'est très très rare pour ne pas dire jamais que les gens ne lui donnent pas d'argent, mais à chaque fois ils lui donnent, excusez-moi, des cacahuètes. Alors qui pour nous pourrait paraître beaucoup, mais des cacahuètes. Des cacahuètes si on parle de vouloir véritablement reconstruire la terre d'Israël. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le Rav Moi Liver comprend que sa chita n'est pas la bonne. Que s'il veut pouvoir influencer, et il est persuadé que tout ce qu'il a étudié l'a amené à ça, et c'est une Torah qu'il vit au quotidien, parce qu'il ne faut pas, qu'on, faut pas se tromper, il n'a pas écrit de livre, mais il écrit des lettres. Il écrit des lettres à ses amis, à ses chavroutot, à lui-même. Et on voit toute sa Torah dedans. Et il voit tous les enseignements du Ramchal, du Gaon de Vilna. Il les cite en permanence. Mais ça ne marche pas. Parce qu'aller voir un pseudo-riche par là, un pseudo-riche par là, un petit jeune par-ci. Et à ce moment-là, alors qu'il ne sait pas trop quoi faire, et que bah, c'est un des rares moments où il est de retour à Radom, il reçoit une lettre. Cette fois, ce n'est pas lui qui écrit, c'est lui qui reçoit une lettre. De qui il reçoit la lettre? Il reçoit la lettre d'un rabbin que vous connaissez bien. Il reçoit la lettre d'un rave qui s'appelle Harav Tzadok HaKohen. Enfin, peut-être que vous le connaissez autrement, sous un autre nom. Sous son nom francisé. Il reçoit la lettre du grand rabbin Zadok Khan. Oui, le grand rabbin de France, Arav Tzadok HaKohen. Et le Rav Tzadok lui dit, dans sa lettre, il dit, Kvod Arav Moaliver, votre nom évidemment vous précède, vos actions vous précèdent, je pense que j'ai la solution. Vous devez absolument venir à Paris. La fenêtre est ouverte. Mastomet, la fenêtre est ouverte. Il dit, la fenêtre est ouverte. Maintenant, pour tous ceux qui ne comprennent pas la Torah Takabala, on peut dire, OK, la fenêtre est ouverte, il y a une opportunité, machin. Il y a, dans la Torah du Ramchal, un texte qui s'appelle Ma'amar HaGeoula, dans lequel nous dit le Ramchal qu'il y a deux memshalot. Il y a deux grandes directions du monde. Il y a ce qu'on appelle Memshelet HaShaar et Memshelet HaChalonot. Memshelet HaShaar, c'est Bezman Geoula. Il y a une grande porte qui est ouverte sur le monde et qui laisse passer la lumière divine. C'est Memshelet HaShaar. Bagalout, la porte est fermée et il y a Memshelet HaChalonot. Et donc, il y a des fenêtres qui laissent passer moins de lumière, mais un peu de lumière quand même. Et nous dit le Ramchal, lorsque la Géoula avance, c'est-à-dire lorsque l'exil commence à prendre fin et que la Géoula se met en place, eh bien les fenêtres se ferment petit à petit. Et au moment où se ferme la dernière fenêtre, la porte s'ouvre. Bon, nous dit le Ramchal que ce moment où la dernière fenêtre se ferme et la porte s'ouvre, dans les cieux, c'est instantané, mais dans ce monde, ça peut prendre quelque temps et ça sera un temps terrible parce qu'il n'y a plus de lumière divine. Il parle de la Shoah à ce moment-là, le Ramchal, mais nous, on n'étudie pas le Ramchal. Là, on étudie Le Rav Shmuel Mohr à l'hiver. Et donc, lorsque le Rav Tzadok lui dit la fenêtre est encore ouverte, il comprend que c'est la fin de la galoute et qu'elle n'est pas encore fermée, cette fenêtre. Il y a quelque chose qui se passe. Le Rav Mohr à l'hiver arrive à Paris. Windows, exactement. Le Rav Mohr à l'hiver arrive à Paris et il rencontre le Rav Tzadok à Cohen. Et le Rav Tzadok lui dit, voilà, écoutez-moi bien. J'ai reçu la visite il y a quelque temps de deux personnes qui veulent faire du bien pour le peuple juif. Et comme ils voient les persécutions, les pogroms, eh bien, ils décident de participer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ils ont vu ce qu'on appelait Soufot Banegev. Mazé Soufot Banegev, c'était les pogroms qu'il y a eu en 1881 en Russie. Alors, il dit qu'ils ont. Non, c'est évidemment, la fenêtre est encore ouverte. C'est-à-dire qu'on est à la fin, c'est la dernière fenêtre. C'est la dernière fenêtre. Donc, c'est maintenant qu'on doit mettre en place. Il y a un peu de lumière. Pour pouvoir mettre en place quelque chose, il faut qu'on commence à mettre en place avant que la fenêtre se ferme et qu'on arrive à un temps d'obscurité terrible. Donc, il faut qu'on mette en place les choses. Le fait que, juste après la Shoah, on a vu l'ouverture de la porte et on a vu l'État d'Israël, ben c'est parce qu'il y a plein de choses qui ont été mises en place avant. Et donc, il dit, voilà, il y a deux hommes qui sont venus après les pogroms de Soufot Banegev et qui veulent faire du bien au peuple juif. Seulement, voilà, ces deux hommes avaient des projets de permettre de créer une autonomie juive en Argentine. Ils s'appellent le baron Maurice de Hirsch et le baron Edmond Binyamin de Rothschild. Je leur ai dit que aller en Argentine, c'était changer un exil pour un autre exil, que seul Eretz Israël pouvait être le salut du peuple juif. Le baron de Hirsch n'a pas voulu écouter. Mais je sens que le baron de Rothschild peut être convaincu. À vous de jouer. Et il organise un entretien entre le baron de Rothschild et le Rav Mohr à l'hiver. Papa! Ok! Le Rav Mohr à l'hiver arrive. Il arrive dans le salon du baron. Un salon magnifique, gigantesque, un mobilier digne de Napoléon. Ce que tu veux, je ne sais pas, des chandeliers magnifiques. Et un homme. Un homme, tu vois qu'il est intéressé, mais en même temps, voilà, encore un rabbin. Et le Rav Mohr à l'hiver commence en disant, Kvoda Baron, j'imagine que vous recevez des dizaines de demandes par jour de gens qui vous demandent votre gentillesse pour les aider pour toutes les œuvres possibles et imaginables. Et j'imagine que je ne suis pas le premier rabbin qui vient vous demander de l'aide pour la communauté, la synagogue, la yeshiva, tout ce que vous voulez. Monsieur le baron, je ne suis pas venu vous demander de l'aide pour ma yeshiva ni pour ma synagogue. Monsieur le baron, je suis venu vous dire que vous pouvez vous inscrire maintenant dans la suite de Moshe Rabbeinu, de Yehoshua Ben Nun, de David HaMelech, de Shlomo HaMelech. C'est ça que je viens vous proposer. Je viens vous proposer de ressusciter le peuple juif. Je viens vous proposer de devenir l'homme qui va permettre la Géoula. Le baron n'était pas prêt. Il n'était pas prêt à ce discours. Il pensait encore à un rabbin qui va lui demander de l'argent. Il pensait lui faire un petit chèque et puis on n'en parle plus. Ils fondent en larmes. Le baron de Rothschild, ils fondent en larmes. Et il dit au Rav Shmuel Mohr à l'hiver, alors comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Yallah! Je suis avec toi. Tu m'as convaincu. Mais je ne te ferai pas de chèque en blanc. Qu'est-ce qu'on fait? Je veux un Tochnit Operativi. Je veux un truc clair. Qu'est-ce qu'on fait? Et le Rav Mohr à l'hiver, il dit, Alaï! C'est moi qui vais faire. Comment ça, c'est toi qui vas faire? Moi, je vais te trouver, pas un, pas deux, je vais te trouver 10 juifs. Et ces 10 juifs, avec ton argent, on va aller créer un nouveau village en Israël, chose qui n'était pas arrivée depuis jamais. Oui, enfin, ce n'était pas arrivé depuis jamais, depuis 2000 ans. Il y a eu le Moshe Montefiori, Zenachon, mais ce n'est pas un nouveau village, c'est un nouveau quartier à côté de Jérusalem. Non, 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 moi je vais créer à partir de rien un nouveau truc, m'en fous. Et tu vas me financer pendant 2 mois, et dans 2 mois, on fera les comptes. Si ça marche, alors les robinets sont ouverts et on y va. Et si ça marche pas, bon ben ça aura pas marché. Le baron, il lui dit, banco! Et c'est parti. Et c'est parti. Le rav, moi, l'hiver, maintenant, doit aller trouver 10 juifs. Et où est-ce qu'il va trouver 10 juifs? Il va partir dans un endroit qu'il connaît bien. Il ne va pas rester à Paris. Il va partir en Russie, là-bas, enfin en Russie, à ce qu'on appelle Vlodova. Et il va à Vlodova, dans la ville de Vlodova, qui est en Sibérie actuelle. Autant vous dire que les conditions de vie là-bas sont pas folichonnes, folichonnes. Le Rav Moi Lever est connu, donc dès qu'il arrive, tout le monde vient à la synagogue et il raconte son programme. Il dit, voilà, j'ai besoin de 10 juifs qui sont prêts à venir tenter l'expérience. On a 2 mois pour réussir le défi de reconstruire le premier village juif en dehors d'Israël. Ah, c'est fantastique. Ah, c'est fantastique, c'est fantastique. Allons-y. Allons-y. À ce moment-là, il dit, Motsaï Shabbat, je reviens à la synagogue et j'espère trouver mes 10 juifs qui sont prêts à être volontaires. Et quand il arrive à Motsaï Shabbat, bah, les amis, il n'a pas 10 juifs. Il a tout le village. Tous sont prêts à y aller. Et là, le Rav Moi Lever, il ne sait pas quoi faire. Il n'a pas prévu de prendre homme, femme et enfant. Donc il dit, bon, ok, 2 secondes. Je vais prendre les 10 premiers. Et on va voir si ça marche. Si ça marche, tout le monde vient. Et c'est parti. L'aventure Israël commence. Et ils vont arriver dans un petit lopin de terre que le baron a acheté, qu'ils vont appeler Ekron. Et c'est parti. Pendant 2 mois, on commence à construire le village. Alors, ce n'est pas le Rav Moi Lever qui est lui-même sur place. Parce que le Rav Moi Lever, à ce moment-là, est en train de construire un autre truc. Une organisation qui va s'appeler Chovevei Tzion. Chovevei Tzion, incroyable! Incroyable! Mazé Chovevei Tzion! Après l'anniversaire fait pour le ministre Moshe Montefiori, on va mettre en place Chovevei Tzion. Chovevei Tzion, c'est parti! Et dans cette organisation, eh bien, il n'y a pas que des religieux. Et il va y avoir en 1882, eh bien, une grande, grande, grande marloquette, mamache, grande marloquette, à l'intérieur de Chovevei Tzion. C'est quoi cette grande, grande, grande marloquette? Qui est le patron de Chovevei Tzion? Car il y a évidemment le Rav Moi Lever, mais il y a également Lilienblum, Moshe Lilienblum et Yehuda Leib Pinsker, qui ne sont pas du tout religieux. Et il y a deux grands pôles dans Chovevei Tzion. Il y a le pôle religieux, le pôle pas religieux. Et la guerre est lancée pour savoir qui va diriger politiquement ce groupe qui s'appelle Chovevei Tzion. Et ça va être une vraie marloquette. Jusqu'à ce que le Rav Moi Lever, en 1984, en 1884, décide d'être mévater. Il dit, le plus important, c'est Chovevei Tzion, c'est pas moi. Et donc, j'ai pas de problème. OK, que ce soit Pinsker le patron, je m'en fous. L'essentiel, c'est que l'unité de notre groupe reflète l'unité du peuple juif. Et 2 mois plus tard, parce qu'il n'a pas perdu de vue notre histoire à Masqueret, à Ekron, eh bien, après 2 mois où les 10 jeunes sont partis, le baron fait venir ses employés pour voir si ça marche. Et les gars, ça marche! Ça marche! Et donc le baron dit, OK, on y va! Et au bout d'un an, c'est les hommes, les femmes et les enfants qui sont arrivés et on a un vrai village qui marche. Puisque ça marche, le baron de Rothschild dit, alors j'aimerais bien qu'on change le nom du village. C'est quand même mon argent, c'est quand même moi qui permets tout ça. Donc j'aimerais bien quand même que la ville soit au nom de ma maman. Et donc, on va changer le nom du premier village en Israël, qui va plus s'appeler Ekron, mais qui va s'appeler Maskeret Batia. Et c'est parti. Maskeret Batia. En 1887, le baron lui-même vient à Maskeret Batia et dit: la résurrection de la terre d'Israël est en marche. Ça y est, c'est génial. Seulement un an plus tard, alors que tous les feux sont au vert et qu'entre-temps, il y a plein d'autres villes qui ont poussé. Il y a eu Petah Tikva, Rosh Pina, Kfar Pines, Zichron Yaakov, tous. Ça marche. Sous l'impulsion de Maskeret Batia du Rav Moi à l'hiver. Seulement, voilà qu'arrive l'année 1889. Enfin, 88-89. Et cette année 88-89, 1888-89, alors ces arrêts plus tard, il va y avoir la première Shemitah depuis qu'on est revenu en Israël. Depuis 2000 ans, on n'avait plus fait la Shemitah. Et là, c'est le drame. Parce que arrive la Shemitah dans une époque où on n'est pas du tout comme aujourd'hui. Dans une époque où ben, les gens, ils survivent, mais ils survivent, c'est le début, quoi. Si tu ne vas pas travailler la terre pendant un an alors que tout tes revenus, c'est uniquement d'agriculture, c'est plus quoi que nefesh. Seulement, attention, lorsque Maskeret Batia a commencé à marcher, le baron de Rothschild a fait un deal avec le Rav Moi à l'hiver. C'est quoi le deal? C'est que le baron de Rothschild donne des instructions et il y a ses pkidim, ses attachés de presse qui sont là pour vérifier que tout se passe bien, mais ils n'ont pas le droit d'intervenir pour tout ce qui est Torah. Tout ce qui est Torah, c'est le Rav Moi à l'hiver. Et lorsqu'arrive la Shemitah, les pkidim du baron, ils disent aux gens: vous devez travailler, sinon tout va être détruit. En un an, vous allez détruire tout ce qu'on a déjà fait. Et les mecs, ils disent: Shemitah, c'est Shemitah. Et le baron de Rothschild vient voir le Rav Moi à l'hiver et lui dit: tu dois trouver quelque chose. Et là, le Rav Moi à l'hiver, avec toute sa force de Torah et toute sa Kabbalah, desquelles il va sortir ce qu'on appelle Koach de Tera Adif, que c'est plus grand un rabbin qui est capable de permettre qu'un rabbin qui est capable d'interdire, eh bien, le Rav Moi à l'hiver va inventer le concept qu'on connaît tous aujourd'hui qui s'appelle Heter HaMechira chez la Shemitah. Le Heter HaMechira. Le fait qu'on a le droit de vendre la terre d'Israël à un non-juif pendant un an, le temps de la Shemitah, pour pouvoir continuer à travailler la terre, qui est encore en vigueur jusqu'à aujourd'hui, Rabotai. Et donc, le Rav Moi à l'hiver va sauver le Yishuv. À partir de là, lorsqu'il se balade en Europe, tout le monde sait que le Rav Moi à l'hiver est le Rav d'Eretz Israël. Et attendez, ça veut dire quoi le Rav d'Eretz Israël? Il n'est pas en Eretz Israël. Nachon. Mais tout le monde sait que tout celui qui pense, qui rêve, qui veut Eretz Israël, il se tourne vers le Rav Moi à l'hiver. Il va même rencontrer en Europe un autre géant de la Torah de cette époque-là, mais pas du tout de la Kabbalah, qui s'appelle le Rav Chaim de Brisk. Et le Brisk Rouv, qui est tout sauf la Kabbalah, eh bien, quand il le rencontre, il dit: Rav Moi à l'hiver, Rav Moi à l'hiver, vous n'arrêtez pas de parler d'Eretz Israël. Et répond le Rav Moi à l'hiver au Rav Chaim de Brisk: Ata lo mevin. Eretz Israël, lifnei akol. Kar katuv batora akdosha. Que Eretz Israël, c'est avant tout. Et c'est ça qui est marqué dans la Torah. Mais comment on va faire pour commencer à motiver les gens de Khoutz Laaretz, pas d'envoyer de l'argent, mais de vouloir venir en Eretz Israël? Eh bien, le Rav Moi l'hiver décide de mettre en place Miftza Etrogim. Mazemifsa etrogim, dans tous les villages, on plante des etrogim. Et il se dit, si on arrive à envoyer des etrogim aux gens qui donnent de l'argent, on leur envoie leur etrogim de Jérusalem. Alors, ce n'est pas vraiment de Jérusalem, mais ce n'est pas grave. Les gens, ils vont recevoir leurs bijoux dorés, jaunes, comme ça. Ils vont être tellement, tellement heureux, ils vont vouloir y participer. Parce qu'on va leur dire, si vous achetez, c'est votre terrain. Ah, les mecs, ils sont comme des oufs. Et le Miftza Etrogim, ça marche du feu de Dieu. Mamache, c'est la folie. Et donc, eh bien, tout le monde achète. Tout le monde achète les Etrogim. Ça marche. C'est génial. Et tout le monde achète les Etrogim. En fait, tu n'achètes pas le Etrog. Tu achètes un lopin de terre. C'est ça que tu achètes en vrai. Ah là là. En 1890, le Rav Moaliver arrive à Jérusalem pour la première fois, alors qu'il a reconstruit Israël de ses mains sans y être venu. C'est grâce à lui tout ça, il arrive pour la première fois en Eretz Israël. Et là, il fait ce qu'on appelle Massa à Moshavot avant le Rav Kook. Il va se balader à Jérusalem, à Hebron, dans toutes les Moshavot. Et évidemment, où est-ce qu'il termine? Ben, il termine à Maskeret Batia. Il termine à Maskeret Batia, évidemment. Sa première, son amoureuse. Et il est tellement heureux là-bas. Il est tellement heureux, il les appelle Giborim Vetzadikim. Il dit, ce sont les gens qui sont les descendants directs du Tanakh. Ils n'ont rien abandonné de leur Torah et en même temps, ils ont tout appris de la terre d'Israël. Ce sont des agriculteurs à Péot, ce sont des bergers et des creuseurs de puits avec Mishnayot dans la bouche. C'est fantastique, c'est extraordinaire. Et puis de temps en temps, il revient quand même en Europe. Et de temps en temps, il retourne à Radom. Et puis un jour, il y a un jeune garçon qui étudie à la yeshiva, mais qui est enthousiasme incroyable pour Eretz Israël. Et il demande à parler au Rav Moaliver. Et le problème, c'est que ce garçon-là, il a les deux talons d'Achille du Rav Moaliver. C'est quoi les deux talons d'Achille? C'est qu'il est jeune et qu'il est amoureux d'Eretz Israël. Là, quand tu as un jeune qui est amoureux d'Eretz Israël, le Rav Moaliver, il lui dit: allez, 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 je fais ton sac et je t'aide à partir. Et là, le jeune, il vient le voir. Il dit: écoutez, Rav, j'ai un grand problème. J'adore étudier la Torah. Et j'y arrive. Mais d'un autre côté, j'ai vraiment envie de partir en Eretz Israël. Est-ce que je dois faire maintenant mon sac à dos et partir, ou je dois continuer à étudier la Torah? Et là, toutes les personnes qui sont dans la salle ne comprennent pas. Le Rav Moaliver le regarde droit dans les yeux pendant des minutes sans parler. Et finalement, il lui prend la main et lui dit: Ata zelo azman shelcha. C'est pas ton temps. Il faut que tu deviennes un géant de la Torah. Et après, tu pourras venir en Israël. Mais enfin, Rav, j'ai envie de venir maintenant. On a besoin que toi, tu deviennes un géant de la Torah. Et après, tu auras ta partie à toi dans la résurrection d'Israël. Personne ne comprend pourquoi le Rav dit ça. C'est la première fois qu'il dit ça à quelqu'un. Bon, moi, j'ai envie de te dire qu'il a vu à l'intérieur de son âme. Il a vu qui c'était le bonhomme. Et oui, c'était qui le petit jeune? Ah, le petit jeune! C'était un petit jeune qui s'appelle... Il s'appelle comment? Il s'appelle Arav. Enfin, pas encore Arav, c'est ça. Il s'appelle le petit Yehuda Maimon Fishman, à Cohen. Ouais. C'est celui qui deviendra le Rav Maimon. Celui qui deviendra un des meilleurs amis de David Ben-Gourion. Celui qui deviendra celui qui est assis à la droite de David Ben-Gourion à la déclaration d'indépendance. Et c'est lui qui fera la bracha de Shehecheyanu veKiimanu veHigyanu la Zeman Hazeh lors de la création de l'État d'Israël. Il a pu avoir une influence énorme sur Ben-Gourion parce qu'il était un géant de la Torah. Et il a pu devenir un géant de la Torah parce que le Rav Moaliver lui a dit: attends, grandis un peu et après tu vas voir, c'est toi qui vas avoir un rôle extraordinaire pour la résurrection nationale. Les amis, vous comprenez un peu qui c'est le Rav Moaliver? En 1896, ah, il est plus tout jeune. En 1896, le Rav Moaliver reçoit une lettre. Il reçoit une lettre d'un homme qui lui dit: écoute, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides. Ah bon? En attendant que j'ai besoin que tu m'aides. Enfin, j'ai besoin que tu m'aides. Je ne sais pas quoi faire. J'ai reçu une demande de la part de la Moshava, et une Moshava en Eretz Israël qui s'appelle Mishmar HaYarden. Et j'ai reçu une demande de la Moshava de Mishmar HaYarden de les aider. Mais je ne sais pas comment les aider. Ah, au fait, moi je me présente. Je suis le directeur de l'organisation qui s'appelle Agudat Zion. Toi, tu es le Nasi Kavod de Chovevet Zion. Et toi, tu as beaucoup plus d'expérience que moi pour aider les choses en Israël. Donc, je te demande de me donner des conseils. Comment on fait pour aider la Moshava de Mishmar HaYarden? C'est qui le président de cette organisation qui s'appelle Agudat Zion, que personne ne connaît? Ben, c'est un bonhomme qui n'est pas encore très connu parce qu'il n'a pas encore sorti son best-seller. Ce monsieur, il s'appelle Binyamin Zev Théodore Herzl. Herzl demande l'aide du Rav Mohalever. Et le Rav Mohalever commence à avoir une itkatvout, des lettres, une correspondance avec Herzl. Ça va pas s'arrêter. Herzl n'arrête pas de lui demander, mais comment il faut faire? Comment si? Comment ça? Comment ça? Et le Rav Mohalever lui répond, lui répond, lui répond. Les amis, je ne sais pas quoi vous dire à part le fait que. À part le fait que. Lorsque finalement, 3 ans plus tard, un an plus tard, je dis n'importe quoi, en 1897, il y aura le premier congrès sioniste à Bâle. Et vous connaissez cette histoire, vous connaissez Herzl, vous savez tout ce qui va se passer. Eh bien, Herzl ne laisse pas l'organisation de son congrès à n'importe qui. Tout est. Et huilé comme prévu qu'il n'y ait que deux discours dans tout le congrès, le sien et celui du Rav Mohalever. Il a tellement de respect pour le Rav Mohalever, il a tellement de kavod pour le Rav Mohalever, que le seul autre personnage qu'il permet de parler dans le premier congrès sioniste, c'est le Rav Shmuel Mohalever. Entre parenthèses, le rabbin de Altneuland. Lorsque Herzl écrit son deuxième livre, Altneuland, le rabbin qui s'appelle Shmuel, c'est au nom de Shmuel Mohalever. Bien, les amis, le Rav Shmuel Mohalever a préparé un discours de folie, mais malheureusement, il ne pourra pas venir le donner à Bâle. Il attrape 3 semaines avant le congrès une pneumonie et les médecins lui interdisent de voyager. Il décédera d'ailleurs quelques mois après le congrès, mais son discours, il l'en fait envoyer à Bâle et il sera lu. Et bah les amis, j'aimerais vous le lire pour terminer notre voyage avec ce géant de la Kabbalah, ce géant de la Torah qui n'était pas dans les livres mais qui était complètement dans l'action. Voilà comment il termine. Rav Shmuel Mohalever nous dit comme ça. Ana Hashem, eyein piyot shluchei amecha Israël. Kadosh Baruch Hu, sois avec la bouche. De ton peuple, le peuple juif. Bene Tzion Ayekarim, Igia Asha Alif'ol. Voilà, fils de Sion, l'heure d'agir est arrivée. Alenu le Shachnea et Asultan ou Memshelet Turquia, Sheyafsheru la Yehudim liknot Adamot velivnot Batim Beret Israël. L'heure est venue de convaincre le sultan de permettre aux juifs d'acheter des terrains et de construire des maisons en Israël. Zichru kama chashuv sheleolam tiyeh benechem ahavat ve'achva. Rappelez-vous combien il est important qu'entre vous, il soit toujours ahava ve'achva. Dehu ki chazaratenu le'eretz Yisrael einena rak atzala ve'agana le'amenu, ela mitzvat Hashem hashkula keneged kol haTorah kula. Rappelez-vous que le fait que nous revenons en Israël n'est pas seulement une protection pour nous. Mais c'est une mitzvah d'Akadosh Baruch Hu et c'est une mitzvah qui est plus qui est au même niveau que toutes les autres réunies. Je continue. Aval ha'atzlacha muftachat rak im toratenu shehi mekor chayenu tiyeh lanu liyisod techiyatenu be'eretz avotenu. Notre réussite dépendra de notre Torah qui sera la base et notre ciment dans la résurrection de notre peuple en terre de nos ancêtres. Mes amis, je n'étais pas là-bas, mais de témoignages qu'on a reçus, mais il y a eu une standing ovation quand la lettre du Rav Mohalever est lue. Tout le monde est debout. Rav Mohalever, dans une lettre donnée à Herzl, 6 mois avant le congrès sioniste. Alors que Herzl a un peu de mal, il se dit, ça marchera pas cette histoire. Il a écrit le livre, ça prend et tout, machin, mais est-ce que ça va le faire? Eh bien, le Rav Mohalever et Herzl parlent en allemand. Ils ne parlent pas en hébreu, parce que Herzl, il ne comprend pas encore bien l'hébreu. Il ne comprendra pas d'ailleurs l'hébreu, mais il parle en allemand. Et je ne vais pas vous le dire en allemand. Je vais vous le dire en hébreu, parce qu'on connaît mieux en hébreu sa traduction. À un moment donné, Herzl dit, dans sa correspondance au Rav Mohalever, il lui dit, j'ai peur que tout ça ça ne soit qu'un rêve. Et dans la lettre que le Rav Mohaliver lui répond, il lui dit, docteur Herzl, vous la voyez venir? Si vous le voulez, ça ne sera pas un rêve. Im tirtzu, enzo agada. La phrase tellement connue de Herzl, Im tirtzu, enzo agada, n'est pas la phrase de Herzl. Elle sera reprise par Herzl, mais c'est la phrase du Rav Shmuel Mohaliver qui aura porté la résurrection nationale. Il mourra et sera enterré à Bialystok. Les nazis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, vont détruire le cimetière de Bialystok, complètement, le cimetière juif. Et ce n'est qu'après la chute du mur de Berlin et la chute du mur communiste que la famille du Rav Mohaliver vont venir essayer de retrouver la tombe du Rav Shmuel. Et ils vont la retrouver après des jours et des jours de recherche dans les décombres du cimetière de Bialystok. Ils vont retrouver la tombe du Rav Mohaliver. Et c'est tout naturellement qu'en avion de chasse, eh bien, les ossements du Rav Mohaliver vont être ramenés en avion de combat en Eretz Israël pour être finalement enterrés à Maskeret Batia, la ville qu'il a créée, rêvée et peuplée de ses mains, celle qui a donné le ton à toute une résurrection, le Rav Shmuel Mohaliver, l'homme du tout qui a été l'instigateur du retour en Israël. Il était Chovevé Sion, il était l'amoureux de Sion, Razak ou Baruch. Voilà, j'ai fini. Il reste que 2 minutes, mais malade, tant pis, pas de questions. Je ne sais pas quoi vous dire. Voilà, c'est tout, c'est terminé, j'ai fini. À vous de jouer, vous pouvez ouvrir le micro.
Alors, tout d'abord,
Rafizon, j'ai une question à vous poser. Bon, c'est magnifique, Shmuel Mohaliver. Pourquoi c'est autant ardu, difficile d'avoir notre terre et de la garder?
Ah, je pourrais te dire que Israël est Israël, niknet beisourin, nous dit le Talmud. Hey, quand tu veux un cadeau, un truc est fort et grand, bah faut bosser. C'est comme ça. C'est vrai pour tout dans la vie, je crois.
D'autres nations, c'est beaucoup plus simple, hein.
Ah oui, mais les autres nations, est-ce qu'ils dévoilent la Kadosh Baruch Hu sur leur terre?
Non.
Non seulement ça, mais si on recevait le cadeau simplement Stam, on se serait heureux sous le moment, mais la joie disparaîtrait. Mais comme c'est tous les jours difficile, à ce moment-là, la joie est beaucoup plus profonde.
Pas de mode.
Un peu mariage. Très bien. Dans les sourires, tu viens la joie.
Quoi?
Toda Rabah, il est 10h du matin.
Toda Rabah.
Toda Rabah.
Toda Rabah.